Active Chorale, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
Salut à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer le match de la 33e et avant-dernière journée de Betclic Elite, la défaite de la chorale de Rouen sur le parquet de l'Adidas Arena face au Paris Basketball, 90-61. À mes côtés pour débriefer ce match, il était avec moi sur l'antenne d'Active, c'est Pierre-François Chetaille, journaliste au Pays Rouennais. Bonsoir Pierre-François.
Rebonsoir Fabien, salut à tous. Effectivement, j'ai eu la chance de partager cette belle rencontre avec toi. Ah oui, c'était quand même...
T'en fais pas trop.
Je m'arrête là.
Alexandre Lamoine, cofondateur du Forum Corallien. Bonjour Alexandre.
Bonsoir à tous. Et comme dirait Pierre-François, les carottes sont cuites.
Oui, bonjour, bonsoir, bonsoir. Allez, on va se mettre en mode soir. Bonsoir Nicolas Bria.
Bonsoir.
Défaite donc de la chorale de Rouen, celle qui scelle définitivement le sort de la chorale de Rouen, en tout cas sportivement. Pour le définitivement, on en parlera avec Nicolas Bria, qui est un peu notre expert magouille Limoges CSP.
Ouais. Présenté chorale... comme ça, ça fait c'est super.
En tout cas sportivement, c'est cuit hein, pour les Rouennais avec cette 23e défaite. Les Rouennais ne termineront pas mieux que 16e et ils pourraient même glisser au 17e rang en fonction des résultats de Blois hein, sur la fin de saison qui joue en ce moment même au moment où on enregistre sur le parquet de Strasbourg. Tiens, comment ça se passe pour les Blaisois? Ça n'intéresse pas nos auditeurs, mais ça m'intéresse moi.
Il y a moins 4 pour Blois.
Voilà. Les Rouennais donc condamnés à la relégation après cette défaite à Paris. Bon, c'est une surprise pour personne, cette défaite face à Paris qui remporté son 24e succès de rang, toutes compétitions confondues. C'est un record LNB et les Rouennais on fantasmait briser cette série, enfin surtout pour l'intérêt du maintien. Mais ce qui devait arriver arriva, la chorale s'incline de 29 points. Il n'y a pas eu photo.
Non, il n'y a pas eu de match complètement. On a joué pendant les 5 premières minutes, on a tenu. Mais après,
il y avait déjà moins 10 à la fin du premier quart.
Juste aux 3 points de duo.
Oui,
en fait.
Puis après, la pression défensive de Paris, on a perdu trop de ballons sur les attaques.
Oui, globalement, un match à l'image de la saison, même si on n'a pas toujours perdu 30 points, mais on a retrouvé ce qui n'allait pas le reste du temps. Et
d'autant plus qu'il y avait l'absence de DJ Cooper.
Oui, alors on pouvait espérer un peu plus de variété quand il était là, mais ça a été dur pour Dio aussi, mis sous pression. pardon, et Doumbouya qui a forcé beaucoup de choses, parfois par obligation.
C'est quoi Doumbouya? Alors d'abord, la chorale de Rouen termine à 22 ballons perdus.
C'est un record.
C'est un record, ça avait été la même chose au Mans, à Antares, il n'y a pas si longtemps.
Triste record donc, c'est 22 ballons perdus. Alors je ne sais pas si l'absence de DJ Cooper y contribue, j'imagine quand même, parce que DJ Cooper, c'est un joueur qui gelait un peu le ballon, donc éviter aussi des pertes de balles un petit peu rapides. Et puis, servait ses coéquipiers pour les mettre en bonne position. Là, ça a été très difficile en attaque de répondre à 61 points marqués seulement pour la chorale de Rouen, qui en inscrit 82 en moyenne par match. Donc c'est 20 de moins que d'habitude. Et puis les 90 points encaissés, bon ça c'est plus fidèle finalement à la saison rouennaise. Il y en avait 50 déjà à la mi-temps. On va pas dire que la chorale de Rouen a lâché, mais la chorale de Rouen a été surclassée par une équipe qui lui est nettement supérieure.
On a remplacé des problèmes par d'autres problèmes, donc on n'a pas avancé. C'est ce qui rend les choses tristes plus que frustrantes, c'est que finalement il aurait été frustrant de descendre en se disant on a une équipe en fin de saison qui, si on l'avait eu toute la saison, elle nous aurait maintenu. L'équipe qui finit la saison, elle ne nous aurait pas maintenu non plus.
Ouais, effectivement, et on a senti toutes les difficultés collectives, notamment offensivement, c'était très très compliqué pour marquer des paniers, tout simplement. Après, voilà, le fait que la chorale descende ce soir, effectivement, c'est pas une déception, parce qu'on avait eu vraiment le temps de s'y préparer. Ça fait des mois qu'on l'envisage, ça fait des semaines que ça devenait de plus en plus pressant, et après la défaite à Gravelines, qui était vraiment le match de la dernière chance, il y en avait eu d'autres, au moins à Chalon, à chaque fois la chorale était passée complètement à travers face à des adversaires directs. Là, voilà, c'est la sentence est tombée.
Et malheureusement, elle est irrévocable.
Elle est irrévocable, effectivement, mais finalement, on descend presque sans émotion, parce que c'était acquis, on avait compris ça depuis quelques temps. Voilà, c'est la défaite dans le Nord à Dunkerque qui à ce moment-là, on a compris. À titre personnel, c'est à ce moment-là où j'ai eu des frissons. J'ai dit, ça y est, on retourne en Pro B.
Au mois de janvier, on se disait, quand tu vois les écarts, les choses comme ça, entre guillemets, il suffirait qu'on batte deux fois Gravelines pour s'en sortir, mais en même temps, il faut qu'on batte absolument deux fois Gravelines pour s'en sortir. Ouais. Alors, dès le premier match qu'on a perdu, on a vu tout de suite la différence d'écart entre entre les deux équipes. Déjà, celle-là, elle avait fait très très mal.
Tu parles des deux équipes. Pour moi, il y avait vraiment une équipe qui est Gravelines Dunkerque et puis un assemblage de joueurs un peu hétérogènes là, qui est la Chorale de Rouen et qui finalement n'a jamais vraiment été une équipe cette saison.
Oui, oui, et ce qui est dommage parce que l'exemple de Gravelines, ça prouve que ça peut le devenir. Parce qu'en début de saison, c'était pas, ils font 0-8 pour commencer la saison, mais ils ont trouvé des solutions. Et nous, on n'a pas trouvé de solution, parce qu'on a, à chaque fois qu'on a pris une décision,
et finalement, ils
sauf
ont pas
peut-être
eu...
Doumbouya et Cooper, ok, mais on s'est quand même rajouté beaucoup de problèmes à chaque prise de décision.
Gravelines n'a pas fait énormément de changements de joueurs. Il y a eu Lauren Jackson qui a sauté rapidement, mais après, ils ont gardé une config quasiment la même depuis le mois de novembre. Et puis, ils ont eu la FIBA Europe Cup pour leur permettre aussi de travailler collectivement, d'avoir du vécu collectif. La Chorale de Rouen, elle a été en reconstruction permanente. Et puis voilà, collectivement, elle ne s'est jamais vraiment trouvée.
Alors, juste en train de dire, Fabien, que jouer la Coupe d'Europe, ça peut être un atout pour jouer le maintien.
Non, mais c'est même plus la peine d'en parler.
Surtout que l'an dernier, rappelle-toi, à la même période, tu parlais de Coupe d'Europe, je me rappelle.
Et que c'est Gravelines qui est passé devant les Rouennais sur le fil et qui a obtenu cette place en Coupe d'Europe. Peut-être que le maintien de Gravelines, Dunkerque, s'est construit sur les dernières journées de la saison dernière en chipant cette place qualificative pour la Coupe d'Europe.
Dès le recrutement, puisque Jean-Denis Choulet, il voulait Clyburn, exactement, et Clyburn avait refusé, préférant aller jouer une Coupe d'Europe.
Bon, après, Clyburn, il n'a pas non plus été... sensationnel cette saison.
Non, mais enfin...
Et voilà, ça résume un peu les difficultés du recrutement.
Non, mais en tout cas, jouer la Coupe d'Europe, c'est un argument pour attirer des joueurs. Et Jean-Louis Choulet a dit aussi récemment sur l'équipe lors du match Asvel Paris que le meneur de Paris, TJ Shorts, il avait évidemment...
Un peu en amont, quelques années avant.
Il y a 3 ans, il y a,
il y a 2 ans. Oui, non, c'était pas cette intersaison, bien sûr. Mais voilà, tout ça, c'est pour dire...
Il est refusé par rapport à l'absence de Coupe d'Europe.
Il est préféré aller à Beaune. Qui disputait une Coupe d'Europe, donc c'est un argument quand même pour faire venir des joueurs.
Si ne pas jouer de Coupe d'Europe, ça t'amène chez toi Jordan Tucker et Cyril Engivine, il vaut mieux jouer la Coupe d'Europe, on est tous d'accord.
Voilà. Après, est-ce que c'est vraiment la Coupe d'Europe ou simplement le fait d'avoir beaucoup moins d'entraînement qui les intéresse? Ça, c'est encore autre chose.
Que dire de ce match, finalement, qui est assez oubliable?
Pas grand-chose.
Mais même, on a regardé les stats de Sekou, il finit finalement à 2 dévales.
16 points, 8 ballons perdus. Alors, c'est vraiment l'exemple du match où il a forcé. Et finalement, il a été un petit peu caricatural sur ce match.
Comme la dernière action là, avant la mi-temps, là, il part en contre-attaque. Dio lui demande le ballon et finalement, il prend un shoot.
Il y a trois joueurs.
Voilà.
C'est ce qui est dommage, c'est que tout le match, on a vu qu'il a été pris à deux. On n'a jamais essayé de vraiment varier le jeu pour
chaque
pour en profiter.
Qui marquait, c'était une lutte remportée au milieu à chaque fois d'une défense qui était concentrée autour de lui.
Mais puis, bon, la stat des 8 ballons perdus, moi, ça me un petit souvenir pour Rashad Wright, le meneur de Pavicevic, qui était un champion des balles perdues aussi.
Et sur ce match, peut-être au-delà des performances de tel ou tel joueur, ce qu'on peut dire, c'est quand même... Le match qui emmène la Chorale de Rouen en Pro B face à un adversaire qui
est-ce
reste...
Est-ce que c'est le match qui emmène la Chorale en Pro B?
De façon mathématique, de façon officielle, qui restera dans les livres d'histoire.
Quel match selon vous?
Bien évidemment que ce n'est pas sur ce match-là qu'on descend. Mais c'est comme un symbole entre une équipe qui reste sur 24 victoires consécutives, qui est en train de devenir un mastodonte du championnat français, même d'Europe, et la Chorale de Rouen qui, à une époque, était championne de France, qui descend en Pro B. Est-ce qu'on les reverra au plus haut niveau?
Il y a deux dynamiques qui se croisent. La grande métropole, la plus grande de toutes, Paris,
c'est
la nouvelle
de...
salle, le club ambitieux, vraiment l'esprit à la fois street et dirigeant américain. Enfin voilà, vraiment le club de 21e siècle et la Chorale de Rouen qui est un peu plus le club années 50, on va dire.
Même début des années 2000, mais voilà, on a l'impression qu'on est en train de changer d'époque.
Il y a un passage de relais qui s'est fait. En quelque sorte.
Et exactement, c'est comme ça que je le ressens.
Ouais, sur la symbolique, oui, sur la forme. Maintenant, sur le fond, c'est aussi une équipe qui a très bien travaillé, parce qu'ils n'ont à peu près pas changé de joueur cette année, contre une équipe, sans vouloir juger qui que ce soit, mais on s'est planté. Quand tu vois, le commentateur de Sweet le disait, à un moment donné, sur le match, on n'a que 2 Américains qui ont commencé la saison.
Donc on voit le Selden sur le terrain.
Et en plus, tu vois Selden.
On a eu un moment 5 joueurs français, on l'a noté avec Pierre-François pendant qu'on commentait le match.
Au tout début de la rencontre, d'ailleurs.
Il y a un moment où il y avait les 2 espoirs, Samuel Mariscal et Narcisse Ngoy. Il y avait Kadri, Moinedze, il y avait Antoine Dio et Sekou Doumbouya. 5 joueurs français, bon, c'est aussi le constat d'échec de l'absence de joueurs américains impactants, hormis DJ Cooper qui était absent pour ce match.
Et ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'on termine la saison avec plusieurs joueurs américains, vraiment j'en ai 3 en tête, qui ont fait l'intégralité de la saison à Rouen en étant quasiment toute l'intégralité de la saison décevant.
dans ouais, un... Il y en a deux. Il y a Lengvin
et Tucker et Grady.
Et Grady, parce que Tucker n'a pas fait.
Il est parti.
Oui, il est parti. Ouais. Bon, il a fait quand même. Il est quasiment resté tout le long. Et au final, il est parti.
Il termine à 12 points.
Avec tous les nouveaux joueurs qu'on a fait venir, tous les départs qu'il y a eu, mine de rien. Il y en a quand même trois qui donnent pas satisfaction, qui sont passés toute l'année ici.
Parce qu'il y avait des cibles prioritaires avant eux. On débattait en mois de janvier, est-ce qu'il faut couper Tucker ou Grady. On l'avait reproché à l'époque, enfin le coach de l'époque nous l'avait reproché. Au final, les deux, Kellen Grady, t'es assez sévère sur Kellen Grady, mais tu rappelles toujours le problème de rapport qui a été pris. Là, il s'est battu jusqu'au bout du match. Ouais, mais un joueur américain à 120 000 de la saison lui demande un peu plus que de se battre.
Un peu plus que ça, parce que moi, j'ai deux images en tête, et j'en ai parlé dans notre groupe, c'est les deux trois points qu'il met, ces deux premiers trois points. Tout de suite derrière, il se place n'importe comment en défense, il se met entre deux joueurs, il est à 1m50 de chaque, et ça finit à chaque fois par un 3 points de l'équipe adverse quasiment immédiatement.
Dans les 5 secondes qui suivent, et c'est vrai qu'il marque pas beaucoup de 3 points, si dans les 5 secondes qui suivent, quand il en marque un, il y a l'adversaire qui
est tout perdu derrière.
C'est un apport neutre.
En tout cas, nos Américains n'en ont pas beaucoup apporté cette année.
Wayne Selden, alors qu'il a repris une petite charge de Marc Bergeron. D'ailleurs, on va l'écouter, l'entraîneur rouennais, après cette défaite à Paris.
La tristesse. C'est un bassin, c'est une ville qui, je pense, mérite d'avoir une équipe en bête-clic. La déception aussi de ne pas avoir pu inverser la tendance au cours de ces deux mois. On n'a pas réussi à créer une alchimie nécessaire et propice à la victoire. J'ai pu faire qu'un changement qui s'est avéré relativement catastrophique aussi. À l'époque, il n'y a pas grand monde sur le marché disponible. On a eu beaucoup de changements, mais je pense que ça n'a pas été les bons qui ont été faits. Et on a un certain nombre de joueurs qui ont de noms que professionnels, que le nom. Quoi.
J'ai une question par rapport à ça, c'est pourquoi ? Non pas pourquoi l'avoir fait venir, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs sur le marché. Et puis, il avait un CV qui pouvait être...
Tu parles de Wayne Selden.
Premier tour. Oui, Wayne Selden, on reste sur ce débat-là. Mais pourquoi lui vient à Rouen, OK, pour toucher un chèque, mais pour jouer à ce niveau-là, alors qu'il a quand même forcément du potentiel. Quel est l'intérêt ? Pourquoi
il vient pour remplacer, acter un peu la sortie de Jordan Tucker, ou en tout cas apporter c'était un peu de concurrence.
Non,
pour anticiper.
Pourquoi avoir cet état d'esprit et ne pas jouer ? Venir dans un club et de dire je ne vais rien faire.
Il était blessé, il était hors de forme.
Je me demande si effectivement il avait les moyens physiques, et je pense que ça n'a peut-être pas été détecté, pas vu. Enfin, en tout cas, il y a une douille quelque part. Enfin, visiblement, ce garçon, il est peut-être plus apte pour le basket de haut niveau. Enfin, on parle de la Betclic Elite, on ne parle pas de. Peut-être qu'il ferait la différence en N1, le garçon, mais c'est qu'élite, il faut être quand même au top physiquement pour exister.
C'est un joueur qui, il y a deux ans, était MVP du Final Four de la troisième Coupe d'Europe.
La quatrième.
Quatrième, pardon. Ce qui reste un niveau tout à fait sympathique. Mais vraisemblablement, et à ce moment-là, il a montré qu'il pouvait être pro, qu'il pouvait être efficace, etc. Donc s'il ne le fait pas aujourd'hui,
il y a déjà 3 ans.
Soit il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, il n'en a plus rien à faire, ça arrive. Soit, effectivement, il y a un problème physique.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ouais, ce serait intéressant à savoir. Une deuxième question, pourquoi il a été prolongé alors que ce n'était pas forcément une obligation ?
Ça m'intéresse. On va en reparler juste après. Mais je voudrais juste aussi, est-ce qu'il a été bien intégré dans le projet ? Parce qu'on le voit sur le début de match, sur ses 5-6 premières minutes, je ne sais plus quand il sort, il touche le ballon deux fois. Sur deux possessions, il touche seulement deux fois le ballon. Alors,
Est-ce qu'il fait les efforts pour.
Il n'a pas le body language pour aller capter les ballons aussi.
Ouais, enfin, quand tu vois comment. Enfin bon, moi je pense qu'il y a un peu de tout.
En tout cas, on passe de Marsh à Selden, ça fait un peu.
Ouais, c'est ce qu'on se disait pendant le direct. C'est vrai qu'on avait pas mal de temps d'échanger avec Pierre-François, parce que bon, le match rapidement s'est avéré assez peu passionnant et avec assez peu de
suspense. En matière de suspense, ouais, c'était pas super.
Retirons. Alors, on va pas refaire tout le fil de la saison. Bon, les Rouennais ont eu 19 joueurs utilisés cette saison, 16 contrats professionnels. J'ai même plus en tête presque tous les noms des joueurs américains. Le premier qui a sauté.
Dan Martin.
C'est Tavian Dan Martin. Il y a eu Lewis Sullivan,
Anosike
qui était arrivé et reparti, Omot arrivé et reparti, Jordan Tucker encore dernièrement, Peut-être que j'en oublie, non, je sais pas. Jalen Jones qui s'est blessé,
oui.
Qui est arrivé et qui s'est blessé. Bon,
voilà, c'est la première année qu'on a autant de joueurs.
Effectivement.
Je ne me rappelle pas avoir eu autant de joueurs sur une saison.
Très techniquement, je pense que l'année dernière, vu comment on finit la saison avec Drell, Ross, etc., peut-être qu'on doit arriver
là,
dans les mêmes zones.
Et là, tu as utilisé des jeunes, hein, parce que mine de rien, Samuel Mariscal a encore une dizaine de minutes aujourd'hui. Enfin, il apporte autant de points que Seldon, et lui, en étant à 100% sur son tir, en même temps de jeu, il apporte autant qu'un joueur qui doit prendre mille fois ce qu'il prend, lui, oui, avec son contrat aspirant.
Statistiquement, parce que...
Bien sûr.
La dépense d'énergie n'est pas la même. Non, le problème sur les contrats et les joueurs, c'est qu'en janvier, il nous en restait déjà plus de deux, je crois. Trois maximum, enfin, oui. Je sais. Mais on était déjà un peu pris à la gorge. Donc,
oui, et le pauvre Marc Bergeron, lui, n'avait qu'une... Il avait qu'une cartouche dans le barilé. Et le problème, c'est qu'il l'a envoyé sur le mauvais lapin. Hein, parce que vraiment, Wayne Seldon, c'est, on l'a dit, c'est un échec.
Alors, c'est un peu comme, rappelez-vous, l'an dernier, on avait recruté un Américain.
Oui,
Ross.
Oui, qui sortait du championnat suisse là, dans des gymnases.
Ah, c'est peut-être compliqué de trouver des Américains à cette période de l'année. Je sais pas.
Est-ce que. Alors,
mais quand on regarde.
On en avait parlé dans le dernier podcast, mais finalement, Doumbouya nous apporte du scoring. Il y avait un William Howard également. Alors, c'est facile de réécrire l'histoire après. Mais un William Howard aurait peut-être été sans doute le profil de joueur beaucoup plus impliqué qu'à Wayne Seldon pour t'aider dans ton opération maintien.
Oui.
L'Américain sauveur, est-ce qu'il existe encore pour des clubs comme...
Regardez, Nancy, ils ont bien pris Clemens, qui fait des bonnes stats. D'ailleurs, il va être signé à Nancy.
Effectivement. Donc,
on peut trouver des Américains.
Au mois de janvier, Clemens qui leur a un peu sauvé la mise. Alors, c'est difficile de désigner un responsable. Hein. Quand il y a un échec sportif, on cherche le responsable. Alors, tout d'abord, on vient d'écouter Marc Bergeron. Bon, c'est évidemment pas Marc Bergeron le responsable cet échec sportif. Il a eu deux mois pour tenter de sauver l'équipe.
Il n'avait aucune expérience, il était entraîneur des espoirs. Ce qu'on peut par contre souligner, c'est pourquoi lui avoir fait confiance à lui. Ce n'est pas lui manquer de respect que de dire ça, mais pourquoi, alors que la situation était déjà très délicate, on dit, allez, on te donne les clés à toi qui n'as aucune expérience. C'est quand même pas spécialement un cadeau à lui faire.
Non, mais il y a des règlements qui simplifient pas la tâche dans ces cas-là. Puisque tu peux pas signer un coach pour 6 mois, est-ce que tu as... Michael Hay, par exemple,
c'était la rumeur.
Rumeur. Est-ce que lui, il a vraiment envie de venir 3 mois, de pas avoir la main sur le sportif, parce qu'on l'a dit, il y a qu'un seul choix,
une seule signature
et éventuellement te lier les mains pour aller coacher en Pro B l'année d'après.
Oui,
avec tous les clubs de Pro A qui cherchaient un entraîneur sur cette fin de saison.
Tu savais que tu mettais les pieds dans un bourbier qui n'était pas spécialement très confortable.
Marc Bergeron, on peut dire qu'il y a des choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Enfin, on peut absolument pas lui imputer la responsabilité de la relégation.
Il y a quelque chose que j'ai bien apprécié chez lui, c'est son discours, notamment après les matchs en conférence de presse, où il disait les choses. Alors, d'une façon, dans la forme, un petit peu moins véhémente, que j'en ai échoué, mais les mots, le fond, étaient les mêmes. Il n'hésitait pas à pointer du doigt les défaillances de certains de ses joueurs de façon très claire.
Oui, mais ça se comprend aussi. Il a beau, entre guillemets, sans dire qu'il a tort, il a aussi beau jeu de faire ça dans cette position. C'est plus facile quand tu dis oui, j'ai perdu, mais c'est pas ma faute. Les mecs qu'on m'a laissés, c'est des branquignoles.
Et du coup, notre regard,
le dit, qu'il y en a qui sont pas professionnels.
Ouais, mais derrière, tu les revois à l'entraînement. Mmh. T'as pas forcément le charisme non plus qu'avait ton prédécesseur.
Oui.
Il faut savoir aussi vivre avec ça. Et c'est, je trouve, plutôt à son honneur de dire les choses.
Et donc le regard du coup se tourne vers son prédécesseur qui a construit cette équipe et a essayé de essayer un petit peu de la retoucher au fil de la saison. Et ce n'est pas lui, c'est pas Jean-Denis Choulet qui descend avec la chorale de Rouen. Au final, je viens de recevoir un message à l'instant de Jean-Denis Choulet qui annonce une conférence de presse pour, dit-il dans ses termes, remettre l'église au milieu du village. Donc j'imagine qu'il attendait cette fin de saison pour prendre la parole. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment eu de droit de réponse, en tout cas il n'a pas sollicité de droit de réponse dans la presse après les différentes sorties.
C'est pas tout à fait vrai. Il a parlé au Progrès, on l'a vu dans Squid.
Il a donné sa version, c'est vrai, effectivement.
Il n'a
pas répondu. En tout cas, ce qui m'explique le message, il n'a pas répondu aux sorties des gens du club à son endroit. Donc voilà, il va solliciter un droit de réponse, acte 2 du coup, effectivement. J'avais oublié, mais c'est vrai qu'il était, on l'avait beaucoup vu, hein, il avait un peu saturé l'espace médiatique après sa mise à l'écart du banc rouennais au début du mois de mars. Ce n'est pas lui qui descend. Alors j'imagine que son discours, ce sera de dire, peut-être, enfin en tout cas c'est le discours qu'il pourrait tenir, peut-être qu'avec moi, cette équipe se serait maintenue, avec Sekou Doumbouya, avec la chorale va quand même descendre, avec la meilleure évaluation du championnat, meilleur passeur, meilleur rival, meilleur intercepteur DJ Cooper, le meilleur scoreur c'est Kudumbuya. Donc c'est vrai que si on regarde sur le plan des individualités, même si il y a des circonstances, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont un énorme temps de jeu, donc effectivement, et qui sont très responsabilisés dans l'équipe, donc évidemment qui statent.
Ça montre à quel point on s'est trompé sur.
Quelle est la part de responsabilité de Jean-Denis Choulet selon vous?
Ah, je suis désolé, je dois y aller. C'est pas du tout que je suis lâche et que je vais fuir cette question, mais je dois vous laisser. Non, je plaisante. Non, mais c'est pour dire que le sujet Jean-Denis Choulet est très sensible. Ce qu'on peut dire, c'est que les partisans de Jean-Denis Choulet et lui-même diront, super, maintenant qu'il a été viré, c'est beaucoup mieux, avec un peu d'ironie. Enfin voilà, qu'avec lui, peut-être que les choses se seraient passées différemment et que la chorale se serait maintenue. Personne ne peut le savoir. Et les détracteurs de Jean-Denis Choulet diront, il nous a mis dans la mouise, il a pas fait les bons recrutements. Et quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats. Qu'il soit bon ou mauvais, que tu sois dans un camp ou dans un autre, tu peux t'en servir comme argument allant dans un sens ou dans un autre.
Ouais.
Donc c'est un débat stérile.
Non, c'est pas un débat stérile, parce qu'il faut quand même faire l'introspection de cette saison et puis comprendre ce qui a posé souci et faire en sorte que ça se reproduise pas. Pour moi, il y a deux choses qui ont posé problème, enfin pas que, mais principalement, c'est le recrutement du départ. Et là, le problème, c'est quoi? C'est peut-être que tu n'es qu'une seule personne qui soit impliquée à ce point-là dans le recrutement.
Alors, ce qui était le cas à l'époque où il a construit les grandes équipes.
Donc, c'est vrai, parce que moi, j'étais au premier entraînement avec Alexandre Combes et on a bien vu que c'était compliqué au niveau recrutement des premiers entraînements.
On s'est posé
la question, est-ce qu'on va rester en Betclic avec ce recrutement?
Ça, je crois que beaucoup de monde l'a vu très vite.
Sur le match amico aussi.
Voilà. Et l'autre, c'est les promesses et le management. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles on perd au mode, c'est parce qu'on a promis beaucoup de temps de jeu à Jalen Jones et qu'on s'y est tenu. Seldon, Pierre-François en parlait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on l'a prolongé? Parce que vraisemblablement, c'était le deal pour qu'il vienne. Donc là-dessus, c'est pas son erreur à Jean-Denis pour Seldon. Mais c'est une manière de faire où, à un moment, je ne sais pas, John, s'il voulait des minutes, il fallait les mériter plus que les exiger.
Enfin, en tout cas, on a fait plein d'erreurs cette saison. Ça sera compliqué de pointer les points.
De toute façon, la relégation d'un club, souvent, ça trahit une accumulation de petits faits à la fois subis ou provoqués par c'est multifactoriel.
Oui, et puis, on l'avait dit dès le premier podcast de la saison, c'est que la blessure de Ross, avec l'importance qu'il avait dans la construction de l'équipe, ça ouvrait la porte à la saison de Qatar et où vraisemblablement tout ce qui pouvait mal tourner pour nous allait mal tourner.
Moi, si j'ai un reproche à faire, c'est là-dessus. C'est la gestion du carrosse. Avoir construit l'équipe en l'incluant dans le roster alors qu'il n'y avait aucune garantie à la fois sur sa date de retour. Enfin, moi, quand on m'a annoncé qu'on espérait le revoir sur le parquet au mois de novembre, c'était ce que donnaient les soignants, le staff médical. J'ai réécouté le
podcast l'an dernier qu'on avait fait en fin de saison et Jean-Denis Choulet disait Maxime Ross reprendra en septembre.
Voilà, ce qui était programmé en tout cas. Bon, au final, il a fait une rechute, personne ne pouvait la programmer. Jean-Denis Choulet n'était pas au courant à l'avance, il n'avait pas une boule de voyant. Mais cette équipe a été construite en fonction d'un joueur qui finalement n'est jamais revenu. Donc, alors, est-ce que ça aurait pu être anticipé? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt se dire, allez, ce sera le the cherry on the cake s'il revient?
Surtout qu'il peut jouer sur deux postes.
En tout cas, ça a faussé la construction de l'équipe. Alors, difficile de trouver un responsable là-dedans, mais voilà, c'est vraiment l'effet papillon de la blessure de Ross qui cause la mauvaise fin de saison dernière, empêche la chorale de se qualifier en Coupe d'Europe et entraîne le déséquilibre dans la construction de l'équipe.
Et surtout que ça nous a fait changer au moins 4-5 postes.
Voilà, qui a usé des contrats, c'est-à-dire que...
Usé des contrats et puis on n'a pas pu couper d'autres joueurs.
Et il y a un deuxième fait. Il y a un deuxième fait, on en a parlé avec Pierre-François, voilà, on y arrive. DJ Cooper arrive au mois de novembre, octobre-novembre, la chorale enchaîne 3 victoires consécutives, sa plus belle série. Et puis, il est sollicité, notamment par le club de Ronald March, dont j'ai oublié le nom.
Le club Prométhée,
voilà exactement.
C'était avant le All-Star Game, je me rappelle.
C'était début du mois de décembre. Oui, c'était vraiment
très vite.
Fin novembre, début décembre. Finalement, tu n'as pas libéré de joueur, tu n'as pas pris le buy-out à ce moment-là. Finalement, tu as gagné combien de matchs sur cette période-là? Je crois que tu as gagné 5 matchs.
On était
depuis.
Tout content de la victoire à Rouen.
Je crois que tu as gagné 5 matchs pour 16 défaites hein, depuis ces sollicitations. 5 matchs pour 16 défaites.
Et on lui a mis une rallonge en plus. Hein.
Voilà, au final, ça t'a coûté plus cher que ce que ça t'a rapporté. Et DJ Cooper ne t'a pas sauvé. Alors, c'est facile de réécrire l'histoire, évidemment. C'est bien facile derrière le micro de le lire, mais on est obligé de poser la question. Est-ce qu'il aurait pas et autre chose que ça te coûte, c'est que là, quand tu as essayé de faire venir Ronald March, finalement, tu as eu Selden. Eh ben, Prométhée, évidemment que t'as fermé la porte en te disant, bah, tu m'as lâché, DJ Cooper, bah, moi je te lâche pas, Ronald March.
Ah bah, c'est sûr qu'une fin de saison avec Ronald March dans l'effectif.
Oui,
je
s'il
pense
y avait
que,
un sauveur potentiel, ça aurait été lui.
Ça aurait pu nous apporter au moins une ou deux victoires.
Donc là aussi, mais évidemment que c'est beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui que d'en parler à l'époque. Mais voilà, peut-être que DJ Cooper n'a pas forcément. Améliorer le sort des Rouennais, enfin en tout cas mathématiquement, oui. Ni lui, ni Sekou Doumbouya n'ont été les sauveurs.
Bah, c'est sûr que quand ton premier salarié, ton joueur qui a le plus de temps de jeu, manifeste qu'une envie, c'est à peine arrivé de repartir, tu peux pas dire que ça
non,
participe
ça.
À la cohésion de l'équipe, déjà.
Il est sollicité par d'autres clubs, c'est pas de sa faute.
Il a le droit de dire je viens de signer, j'ai pas envie de vous parler. Bah, il a le droit de le dire.
Ouais, en tout cas, sur l'attitude, c'est l'un des joueurs qui vraiment manifestait une détestation de la défaite, ça se voyait sur son langage, je trouve, corporel, et qui n'a pas lâché, malgré ces sollicitations-là, pardon. Et sur l'attitude, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il y en a d'autres.
Il n'était pas facile dans la vie de tous les jours, a priori, dans le club, avec les autres joueurs. Il était dur. Peut-être que ça s'appelle juste l'exigence.
Au quotidien, effectivement. Mais voilà, je pense qu'il est dans une équipe qui n'est pas de son standing non plus, honnêtement. C'est l'ancien MVP du championnat.
Le standing qui a sali lui-même en prenant 2 ans de suspension.
Le standing de le MVP, le titre de MVP de Cooper, il est bien plus ancien que celui de Selden. Donc, il n'a pas forcément plus de valeur à leur hache. Ouais, non.
Franchement, je pense quand même que c'était un apport de l'avoir dans cette équipe.
C'était un grand apport pour Yanis Morin, effectivement.
Que le contraire, ouais, Yanis Morin ne va pas dire le contraire. En revanche, on peut dire aussi que Ronald March, effectivement, nous a énormément manqué cette saison. On s'en rend encore plus compte quand il est absent. Et peut-être que l'année dernière, avoir un joueur d'un tel calibre qui a terminé tout proche de Victor Wembanyama, je ne sais pas si vous connaissez le joueur, mais c'est plutôt un bon en matière de scoring. L'avoir, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et quand il est parti, bah c'est là vraiment où il nous fait faute.
Nicolas.
Non, la déception, finalement, c'est de finir la saison en ayant mis autant de moyens sur la table et de ne pas les avoir pour l'année prochaine.
Parce qu'on a eu dépensé plus de 300 000, c'est ça ?
Voilà, il y a ça. De ne pas éventuellement avoir pris les buy-out en se disant, bah tiens, je ne sais pas ce qu'il y a un buy-out réaliste pour Cooper, mais 120, 150 000. Bah, ça te fait quand même quelques joueurs pour aller en Pro B, de bons joueurs de Pro B. Et en plus de ça, là, du coup, à la fin.
À l'époque, c'était surtout pour remplacer Cooper, un autre joueur valable.
En plus de ça, à la fin, on n'a même pas. Ça se voit un peu plus, mais on aurait pu inclure un peu plus nos jeunes dès le milieu de saison en se disant peut-être qu'il faut compter sur eux pour l'année prochaine.
On peut donner crédit à Marc Berchouan d'avoir là intégré Narcisse N'Goy qu'on réclamait. Oui. Alors c'est pas Jean-Louis Michoulet qui allait l'intégrer. Il a essayé, ça n'a pas matché. Donc il était parti pour l'écarter du groupe pro et
oui.
Finalement.
S'il y avait
Berchouan
le petit Diakité, c'est ça
oui,
avait joué aussi.
Diakité. Il y a le petit Samuel Mariscal qui est encore ce soir, cet après-midi contre le Paris Basketball, a apporté au moins un petit peu d'enthousiasme.
Pierre-Justin rejoint.
Théo Pierre-Justin, on peut mettre au crédit de Jean-Denis Michoulet.
Celui qui a beaucoup perdu dans cette opération, à mon sens, et la question se pose pour l'année prochaine, c'est Bouzidi. Parce que.
Encore en difficulté aujourd'hui.
Très en difficulté. On a l'impression qu'il cherche même plus à attaquer le cercle, alors que il était capable de faire ses sorties à 6 points, des choses comme ça.
Manque de mobilité,
c'est plus dur,
hein. Des petits meneurs type TJ Short.
Oui.
Qui risque de croiser l'an prochain, ce profil de joueur, pas TJ Short.
Oui,
en Pro B, si la chorale descend en Pro B. Tiens, justement, faisons la jonction.
Le point CSP avec
Alors, CSP, oui.
Juste une dernière chose sur la responsabilité. Il faut le dire aussi, au niveau hiérarchique, peut-être même que ça arrive en premier, la responsabilité de la Ligue nationale de basket qui a décidé qu'il y ait 3 descentes cette année. Et c'est aussi ça, C'est d'abord ça, même d'un point de vue mathématique, statistique.
Le report de Gravelines Dunkerque
qui nous plonge en Pro B. Et voilà, tu le dis, effectivement, ce report incompréhensible.
La Coral a perdu beaucoup d'énergie aussi à se battre en recours pour finalement ne rien obtenir. Ah,
et puis à affronter un adversaire à Gravelines trois mois après, avec les blessés qui étaient revenus,
plus
avec
la même
les malades potentiels.
Plus la même dynamique.
Et Gravelines, c'est quand même l'adversaire direct numéro un de la Coral dans la lutte pour le maintien.
C'est vrai que ce match de Gravelines, ça nous a plombé. Cette saison, quoi.
Et ça a été une grande distraction, et puis ça a continué à montrer toute la valeur des décisions de la Ligue, qui prend une décision avec son comité sanitaire et qui le lendemain le dissout, parce que vraiment c'était pas terrible. Là, on risque de. On va parler de Limoges, mais on risque de jouer la descente sur le ranking qui est supprimé dès l'année prochaine. Enfin, c'est absolument lunaire.
Alors, le Limoges CSP, Nicolas, toi qui suis de ça de très très
de
près.
De très très près.
Les Limoges CSP, donc il y aura passage devant la DNCG le 15 mai. Et là, alors, ça foisonne dans la presse régionale.
La montagne.
Sur
le populaire du centre.
La populaire du centre. Attention, là, tu es un expert de
la montagne. C'est le même groupe que la montagne, Centre France.
Exactement, comme le Pays Rouennais. Il y a quand même, c'est quand même télémagouille hein, à Limoges.
C'est Dallas, oui.
Ah, mais c'est absolument incroyable. Enfin, j'invite tout le monde à aller sur le site beaublanc.com qui a très très bien résumé ce qui se passe.
C'est
mais
pas
enfin,
Dallas, c'est Narcos.
Il y a une histoire.
Ils ont mis un compte à rebours.
Non mais attends, ça frôle quand même l'arnaque au CPF. Ce qu'on apprend, c'est que les jeunes du CSP du centre payent leur formation parce qu'on leur signe un contrat d'alternant, qu'on fait des formations CPF avec. Enfin, c'est absolument incroyable.
Quand tu dis CPF, rien à voir avec moi.
Non, pas toi. On commence à apprendre qu'il y a 15 jours, ils étaient encore en formation à Madrid, nos amis, Madame Forte, jeune, Monsieur Lanave, sont partis en formation à Madrid sur la carte bleue du club, manifestement. Enfin, ça n'arrête pas, alors que le club est quand même dans une situation catastrophique. Il y a une enquête qui est menée, tes commissaires au compte.
C'est que, en fait, le CSP donne de l'argent à un partenaire pour qu'ensuite il lui redonne sous forme de partenariat. Enfin, en tout cas, il gonfle artificiellement ses partenariats pour passer crème
devant la
DNCG
à la dernière minute. Ça, c'est absolument incroyable.
Donc, si magouille est avérée, la DNCG à un moment va sévir. Et comment sévir autrement? Ils ne vont pas leur remettre de défaite de plus. Ils vont être embauchés à un moment de la relégation. Administrativement, non ?
S'ils finissent la saison, parce qu'il y a quand même la question de la cessation de paiement avant la fin de la saison, parce qu'il manque 800 000 euros de subventions plus.
C'est 2 millions, non ?
D'autres sommes qui sont parties, on ne sait pas
plus
où.
De 600 000 euros, je crois, de subventions.
Donc on se retrouve, ils se retrouveraient, il semblerait, dans une situation où il y a plus d'argent sur les comptes en ce moment.
Il n'y a pas grand monde pour venir sauver. On parle beaucoup de.
Lionel Pelluet. Voilà. Alors Lionel Pelluet, il semblerait qu'il soit capable d'amener 1,5 million, 2 millions tout de suite, mais le problème, c'est que prends le déficit du club cumulé, le besoin en trésorerie immédiate et ce qu'il faut mettre au pot pour tout de suite montrer à la DNCG que tu peux couvrir les pertes de l'année prochaine, il faut le triple.
Et puis, c'est pas les.
Et il suffit pas de dire à la DNCG, je mets tout de suite ça et je vais faire venir des investisseurs que je ne connais pas encore pour que la DNCG dise, bah, formidable, on repart une troisième saison dans l'inconnu.
Il y a deux projets différents d'investisseurs de reprise qui ne communiquent pas entre eux visiblement. Et on peut pas imaginer les collectivités locales faire le sauvetage et dire, on prend la direction du club. L'investissement serait trop élevé, j'imagine.
Je pense que c'est un peu élevé, oui, quand même, pour
avec
une collectivité locale.
La baisse de dotation de l'État, je pense qu'on aurait le contribuable Limougeot, tout supporter du CSP qui est, n'accepterait pas.
Et quand bien même, j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, il y a si magouille, ça reste quand même à vérifier, mais on le saura assez rapidement, ça reste une infraction par rapport au règlement. Et grâce à ça, ils ont pu sans doute recruter
L'infraction avait déjà été sanctionnée l'an dernier. Enfin, le problème de compte avait été sanctionné de deux défaites.
Mais c'est infligées. Que dalle, deux défaites, sérieux.
Voilà, mais là, effectivement, s'il n'y a plus rien dans la caisse, c'est une relégation administrative.
Pour le coup, ce serait mieux qu'ils infligent des défaites supplémentaires qui sauveraient le 16e plutôt qu'une relégation administrative qui sauverait un club au niveau du ranking. Bref, tout cela est assez complexe.
Les Mets, est-ce qu'ils ont l'ambition de rester en Betclic? Déjà, ils savent où ils vont jouer l'an prochain, ils vont jouer à ici, les Moulineaux. Ils continuent leur tournée du 92.
C'est une petite salle de 1500 places.
2000, hein. 2000 ouais, quelque chose.
De toute façon, le 15 mai, la saison régulière, elle est terminée.
Effectivement.
Oui.
Donc,
depuis 4 jours.
À peu de choses près, la réunion à la DNCG, elle ne va pas se jouer, ça n'aura pas pour un objet cette année. Ça va être la question, est-ce qu'on engage le club pour l'année prochaine? Vraisemblablement,
est-ce que on peut pas jouer aussi la montre avec des recours?
Il y a un recours.
Est-ce que le pire, ce serait de savoir que finalement tu restes en Pro B, mais que tu saches ça fin juin et que tu aies déjà pris beaucoup de retard sur la construction
de ton équipe. Si on commence le recrutement avec le futur entraîneur, peut-être Andrieux, on en a parlé sur Bibasket cette semaine.
Ouais. Exactement.
Donc à voir ce qu'on va faire.
Après, juste sur Limoges, on peut quand même préciser, parce que là, on passe un peu pour des mauvais joueurs, que les joueurs du Limoges CSP mérite.
Maximon, ça a très bien dit ce matin dans les colonnes du terrain. Il a dit sportivement ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Il faut le reconnaître.
Ce qui se passe aussi en tribune avec une jolie ambiance, une place forte du CSP
qui s'est fermé tous les matchs.
Voilà, c'est un public qui mérite d'avoir son club en Betclic Elite. Ce qu'on peut dire aussi, c'est pas être mauvais joueur, c'est que si des règles ont pas été respectées, que les autres les respectent, il y a une injustice.
Ce que disait Maximon, c'est-à-dire que s'il joue avec des joueurs qui pouvaient pas se payer au départ, c'est de la triche.
Quand tous les ans tu perds 1 million d'euros, qu'un gros joueur de basket c'est 250 000 euros, oui, vraisemblablement, il n'y a pas qu'un seul joueur dans ton effectif que tu ne pouvais pas te payer.
Allez, on se retrouvera samedi prochain pour le dernier match. Tu voulais rajouter quelque chose, Alexandre?
Non, j'espère que le dernier match sera à guichet fermé, j'imagine.
On s'en rapproche.
Et au moins cette année, la bonne nouvelle par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'on n'aura pas une défaite de l'ASVEL qui cause notre relégation. Ouais. Enfin, une défaite face à l'ASVEL qui cause notre relégation.
Oui, était déjà entraîné en relégation.
Il y a 10 ans aussi.
Oui,
je sais pas si Edwin Jackson va remarquer 44 points.
Oui, je pense qu'il va essayer de.
Il n'y aura pas l'Auvergne ni De Colo.
Pour info, en tribune, on tâchera quand même de mettre une belle ambiance et je vous annonce un petit spectacle pyrotechnique en avant-match.
Tu vas danser
suspension de vacheresse pour les
à l'extérieur de la salle, pas à l'intérieur.
C'est le lendemain de 3 Valenciennes, annoncer ça, c'est bien.
Allez, rendez-vous samedi. Alors, 11
dans un
mai,
esprit responsable, bien entendu.
19h15 pour le match sur Active.
Et bon enfant.
Et le débrief ensuite dans Active Choral, le podcast. On fera le débrief de cette saison 2023-2024. Bonne fin de soirée à tous.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Active Choral, le podcast.